Ce matin, nous a été rappelé ce verset de Jean 4, où le Seigneur parle à une Samaritaine, à une femme qui était honteuse d'elle-même et qui fuyait la présence de ses semblables pour lui dire, l'heure vient, au verset 23 donc de Jean 4, l'heure vient et elle est maintenant. Que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car aussi le Père en cherche de tels qu'il adore. De vrais adorateurs. Le Père cherchait de vrais adorateurs, qui puissent l'adorer en esprit et en vérité, c'est-à-dire selon ce qu'il est lui-même, parce que Dieu est esprit, nous est-il dit un peu plus loin. Mais elle est maintenant. Elle est maintenant, c'est qu'il y avait sur cette terre déjà celui qui pouvait adorer Dieu en esprit et en vérité, comme cet homme parfait qui était venu sur la terre et qui pouvait l'adorer. Alors, quand nous pensons à l'adoration, si je vous demandais à quoi vous pensez quand on parle à l'adoration, est-ce que vous, la première de nos pensées, on pense du culte et de l'adoration collective que nous pouvons rendre chaque dimanche, chaque premier jour de la semaine, le jour de la résurrection de notre Seigneur à notre Dieu. Mais il y a un autre aspect de cette adoration, que Dieu veut nous voir lui rendre en esprit aussi et en vérité. C'est cette adoration que nous pouvons rendre dans les circonstances de notre vie, dans notre vie quotidienne, chacun individuellement ou en famille, ou à d'autres occasions encore. Est-ce que notre Dieu ne veut-il pas que cette adoration monte continuellement de nos cœurs, pas simplement une fois par semaine, quand nous sommes réunis ensemble, mais et justement, est-ce que ce n'est pas si nos cœurs sont occupés de cette adoration continuellement, sont dans cet esprit, cet état d'esprit de l'adoration, alors que la louange pourra monter ensemble, nous pourrons faire monter cette louange à notre Dieu d'une façon riche, et d'une façon qui lui soit agréable aussi, et que nous pourrons faire des progrès justement dans cette louange collective. Alors je voudrais citer un verset en Luc, où dans des circonstances quotidiennes de sa vie, le Seigneur pouvait louer son Dieu. Et donc nous avons cette... Non, c'est pas... Excusez-moi, c'est pas Luc, c'est Matthieu 11, que plusieurs connaissent certainement. Donc, si nous lisons en Matthieu 11 et au verset 25, le Seigneur dit, « En ce temps-là, Jésus répondit et dit, « Je te loue. » Donc, c'est la louange qui monte de son cœur. « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux petits-enfants. Oui, Père, car c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. » Et je voudrais continuer au verset 28. « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. » Dans quelles circonstances le Seigneur prononce-t-il ces paroles ? Dans quelles circonstances cette louange s'élève de son cœur vers son Dieu? C'est ce que nous voyons dans le passage précédent, dans les paragraphes précédents. À la fin du verset 19, nous voyons le Seigneur doit dire à ceux qui l'entendent, « Le Fils de l'homme est venu, mangeons et buvons, et ils disent, voici un mangeur et un buveur. » Un ami des publicains et des pécheurs. Et au verset 20, il doit commencer à adresser des reproches aux villes dans lesquelles le plus grand nombre de ces miracles avait été fait parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. On voit dans ces deux versets que je viens de lire que le Seigneur Jésus était rejeté dans sa personne. Ils ont dit, voilà quelqu'un qui mange avec les publicains et les pécheurs, un mangeur et un buveur, sa personne, Combien plus merveilleuse était-elle que celle-là, mais eux, ils y voient cela. Il était ensuite dans ce verset 20 que nous avons lu aussi, il était rejeté dans son service, dans la mission qu'il était venu accomplir sur cette terre. Il était venu et ses œuvres rendaient témoignage de lui et on voit que ces villes ne s'étaient pas repenties. Jean avait été envoyé et avait prêché le baptême de la repentance et des foules étaient venues. Mais là on voit le Seigneur accomplit ses miracles pour qu'il soit reconnu et que les âmes se repentent et elles ne se repentent pas. Et quelqu'un qui est rejeté comme ça dans sa personne, est-ce que ça ne nous est jamais arrivé d'être rejeté dans notre personne ou dans le service que nous accomplissons ou dans quelques situations dans lesquelles nous nous trouvons? Combien cela est difficile à vivre, combien cela est difficile à supporter et combien cela peut produire des sentiments qui sont de la révolte, qui peuvent être de l'insatisfaction, qui peuvent être de la tristesse toujours, me semble-t-il, mais bien des sentiments qui ne sont pas l'honneur et la gloire, qui en tout cas ne sont pas ceux qu'exprimait le Seigneur dans cette circonstance où il dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre ». Et quel était son secret? On le verra peut-être un peu plus loin après, si nous en avons le temps. Mais quel était son secret pour pouvoir estimer ces circonstances qui étaient fâcheuses au possible, dans laquelle il était remis en cause lui-même, où il n'était pas accepté selon ce qu'il était? Quel était son secret? On le voit un peu plus loin, donc dans ce que nous avons lu. « Parce que je te loue, ô Père, oui Père, car c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. » Et combien, en effet, quand nous acceptons tout venant de la main de Dieu, alors même si ces circonstances sont difficiles, même si ces circonstances sont contraires, même si nous y trouvons de la contrariété, alors, puisque ça vient de Dieu, puisque ça vient de notre Père, comme le Seigneur le dit ici, ce Père qui nous a révélé comme étant notre Père aussi, alors nous pouvons accepter ces circonstances, mais pas simplement les accepter, pas simplement les traverser en faisant le dos rond, mais comme une occasion de louange à notre Dieu. Et ici, c'est ce que le Seigneur fait. Et on voit combien cette louange, ce qui occupait son cœur, c'était bien son Dieu, et ayant son Dieu devant lui, alors dans ces circonstances, les prenant comme venant de Dieu, il peut lui dire de son Père, il peut dire « Oui, Père, c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. » Le Seigneur était venu pour cela, et il a manifesté cela en perfection, mais j'ai lu après les versets 28 et 29. Il voulait que d'autres puissent le suivre dans ce chemin de la vie, dans ce chemin de la vie au milieu d'un monde méchant et mauvais, au milieu d'un monde pécheur, en inimitié contre Dieu, où la souillure du péché marque toute chose. Dans ce chemin, il voulait que d'autres puissent effectivement participer à son propre état d'esprit, son propre état d'âme, à ce qu'il vivait de cette vie divine qu'il avait en lui, de ce qu'il vivait, il voulait que nous le connaissions, que d'autres que lui le connaissent. Et alors on voit ici comment, quel est le chemin pour que nous puissions maintenant connaître ce que le Seigneur Jésus a connu, vivre ce que le Seigneur Jésus a vécu lorsqu'il était ici-bas sur la terre. Et alors au verset 28, « Venez à moi ». Nous avons trois verbes dans ces deux versets. « Venez à moi, prenez et apprenez. » Le premier verset, verset 28, dit « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés. » Alors, il y a bien des motifs de fatigue et de charge dans la vie. Il y a ce péché qui nous enveloppe si aisément tout fardeau finalement qui nous charge, bien des fardeaux par les soucis de la vie, etc., que nous pouvons traverser et chacun peut les éprouver pour lui-même et même en général chacun peut voir quant à ce qui le concerne, son état de santé, les relations les uns avec les autres, avec sa famille, quand en particulier quelqu'un qui est seul converti dans sa famille peut avoir bien des difficultés, peut être bien chargé par ces choses, mais le Seigneur les connaît. Mais ici, ce dont il est question, ce n'est effectivement, on peut y voir ces choses-là, Mais la première des choses que le Seigneur demande, dit « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés », c'est de quelque âme qui est chargée par ses péchés, qui, devant Dieu, voit qu'il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie et qui ne sait pas comment s'en débarrasser et qui s'enfonce toujours plus dans une lutte, mais comme on le voit dans Romains 7, sous un autre angle, mais une lutte qui est sans fin, une lutte devant laquelle on ne peut qu'abdiquer finalement, si on ne trouve pas le chemin qui effectivement nous en délivre. Et je pense peut-être ici à un enfant qui lutte parce que il s'aperçoit qu'il ne peut que pécher, que malgré ses bonnes résolutions, le lendemain, il prend une bonne résolution et le lendemain, il manque. Ou d'autres encore, ça nous arrive peut-être à tous aussi. Mais il y a un chemin, justement, où nous pouvons être délivrés de cette situation, de ce poids du péché qui peut reposer sur l'un ou sur l'autre. Et c'est en venant à Jésus. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Venez à moi. Pour venir à quelqu'un, ça veut dire qu'il y a une distance. Sinon, on est tout près, on n'a pas besoin de venir. Venez à moi, ça veut dire qu'il y a un déplacement à faire. Il ne faut pas rester dans ses propres pensées, à ruminer sa situation. Non, il faut voir celui qui tend la main et qui dit « Viens à moi », qui dit dans sa parole et dans son amour « Je suis venu jusque sur la terre ». Et j'ai quitté cette gloire du ciel, comme on l'a évoqué ce matin, et qui dit « Venez à moi ». Vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. On a vu dans notre cantique, la dernière strophe, on a parlé du repos éternel. Mais est-ce que nous avons conscience que le Seigneur veut déjà nous donner du repos sur la terre? Du repos, et ici c'est le repos de la conscience. Quand on fait la paix avec Dieu, quand on a cette paix avec Dieu, que la question des péchés est réglée à jamais par le sang de Jésus, alors on a ce repos, on goûte ce repos de la conscience. Mais après, le verset suivant, au verset 29, il y a le repos que le croyant, celui dont la conscience est libérée, celui dont la conscience est à l'aise et le cœur est à l'aise devant Dieu parce que ses péchés ont été réglés, alors il y a le repos que le croyant est amené à goûter, que le Seigneur veut donner au croyant dans sa marche ici-bas, dans son chemin ici-bas. Et il y a deux conditions pour cela. La première, c'est « Prenez mon joug sur vous » et la deuxième, « Apprenez de moi ». Prenez mon joug sur vous, est-ce que ce n'est pas autre chose que justement accepter en toutes circonstances, en toute occasion, dans tout ce qui nous entoure, dans tout ce qui nous environne, accepter la volonté du Père. C'est ce que le Seigneur acceptait dans sa vie. Il acceptait toute chose comme venant de son Père. Et alors, il peut effectivement se soumettre entièrement à cette volonté, quels qu'en soient les effets sur lui, quelles qu'en soient finalement les conséquences pour lui-même. Et alors, effectivement, il y a ce joug que nous avons à prendre. Apprendre, mais comme il est dit ici, prenez mon joug sur vous. Cette attitude d'esprit qu'il avait de recevoir toute chose venant de son Père, c'est cette attitude qu'il nous propose aujourd'hui pour que nous puissions goûter le repos. Mais il y a aussi « Apprendre de lui ».« Apprenez de moi car je suis débonnaire et humble de cœur ». Apprendre de lui, n'est-ce pas le sujet de toutes les Écritures? Le Seigneur pouvait dire dans l'Évangile selon Jean « Sondez les Écritures car ce sont elles qui rendent témoignage de moi ». Et n'est-ce pas l'objet du Saint-Esprit? Le Seigneur dit en quittant les siens à la fin de l'Évangile, dans les chapitres 14, 15, 16, de l'Évangile selon Jean, il dit « Mais il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais, l'Esprit Saint ne viendra pas. Mais s'il vient, il prendra des choses qui sont à moi et vous les communiquera. » Et c'est bien l'Esprit Saint aussi. Et aujourd'hui, l'objet de l'Esprit Saint de prendre des choses qui sont à Christ et de nous les communiquer. De prendre quelque chose de cette vie qui s'est manifestée en perfection et qui existe toujours maintenant dans le ciel, pour que nous puissions la manifester, la saisir, la comprendre, et comme il est dit ici, apprendre de moi, et vous trouverez le repos de vos âmes. C'est le repos que l'on peut goûter dans le chemin, le repos que le Seigneur pouvait trouver dans le chemin parce qu'il se confiait en son Dieu. Apprendre de moi. J'ai dit tout à l'heure que les Écritures, toutes les Écritures, rendaient témoignage de lui. Et il y a des passages plus particuliers qui nous parlent de lui. On pense à Isaïe 53, on pense des prophètes, on pense des psaumes qui nous parlent de lui. Et il y en a un qui nous montre la perfection de l'homme, Christ Jésus, et que j'aimerais que nous lisions ensemble, et qui nous montre justement comment, quel était l'état d'esprit du Seigneur pour pouvoir être en paix, pour pouvoir être en joie dans les circonstances, alors que nul autre homme n'a connu des circonstances aussi difficiles que celles que lui-même a traversées. Et je vous propose de lire le psaume 16, parce que c'est en étant occupé du Seigneur, en étant en vivant, que nous pourrons mieux vivre de sa vie et faire les expériences, traverser les mêmes expériences que lui a traversées au travers de ce monde méchant et mauvais. Donc, nous lirons au psaume 16, Mictam de David. « Garde-moi, ô Dieu, car je me confie en toi. Tu as dit à l'Éternel, tu es le Seigneur, ma bonté ne s'élève pas jusqu'à toi. » Tu as dit aux saints qui sont sur la terre et aux excellents, « En eux sont toutes mes délices. Les misères de ceux qui courent après un autre seront multipliées. Je ne répandrai pas leur libation de sang et je ne prendrai pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est la portion de mon héritage et de ma coupe. Tu maintiens mon lot. Les cordeaux sont tombés pour moi en des lieux agréables. Oui, un bel héritage m'est échu. » Je bénirai l'Éternel qui me donne conseil. Durant les nuits, même mes reins m'enseignent. Je me suis toujours proposé l'Éternel devant moi. Parce qu'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur se réjouit et mon âme s'égaie, même ma chair reposera en assurance. Car tu n'abandonneras pas mon âme au Shéol. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Ta face est un rassasiement de joie et il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. Que ce psaume, pour les plus jeunes peut-être, que ce psaume concerne le Seigneur, c'est, on le trouve dans le, il y a d'autres passages, mais en acte 2, quand il est cité par l'apôtre Pierre. Juste pour lire et bien établir les choses, lirons en acte 16 justement où ce psaume est cité. Il a dit au verset 31 de acte 2, donc David a dit de la résurrection du Christ en la prévoyant qu'il n'a pas été laissé dans le Hadès, que sa chair non plus n'a pas vu la corruption. Et pourquoi a-t-il dit ça au verset, parce que donc dans les versets 26 à 28, c'est le verset que nous avons lu, les deux derniers versets du psaume 16, ou trois derniers versets. Et au verset 29, l'apôtre Pierre dit aux Juifs, « Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire avec liberté touchant le patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, que son sépulcre qui est au milieu de nous jusqu'à ce jour, étant donc prophète, et sachant que Dieu lui avait juré avec serment qu'il ferait asseoir quelqu'un suscité du fruit de ses reins sur son trône, il a dit de la résurrection du Christ en la prévoyant qu'il n'a pas été laissé dans le Hadès. » Donc on voit que l'apôtre Pierre applique ce psaume, le psaume 16, au Seigneur Jésus, en disant « David était prophète, il a dit à l'avance ce qui concernerait le Seigneur Jésus. » Et si des versets s'appliquent plus particulièrement avec lui, tout ce psaume s'applique à lui, et notamment pourquoi ? Parce qu'il est parlé de son sein. Au verset 10, « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Ton sein ici, c'est l'homme pieux, celui qui se confie en Dieu dans sa marche sur la terre. Et donc, si on revient au verset 1, on voit, juste peut-être pour replacer les choses un peu par rapport au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est le Fils éternel du Père, et comme tel, nous ne le connaissons pas. Comme c'est dit en Matthieu, dans le verset que je n'ai pas lu, en Matthieu 11, « Nul ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. » En revanche, le Père Le Fils le connaît et ceux à qui il voudra le révéler. Mais le Seigneur Jésus est donc le Fils éternel, celui qui est Dieu et de toute éternité Dieu. Mais il est devenu homme. Tout en restant le Fils éternel, tout en restant Dieu, il est devenu homme. Mais un homme parfait, non seulement un homme parfait, mais parfaitement homme, c'est-à-dire quelqu'un qui vivait tout ce que nous vivons, à part le péché, comme cela a été rappelé dans une prière ce matin. À part le péché, il vivait tout. On le voit dans l'Évangile, souffrir de la faim, souffrir de la soif, souffrir de la moquerie, souffrir de toutes ces choses qui peuvent nous faire souffrir sur la terre ou que nous pouvons connaître sur la terre. Mais il avait une expérience, et nous l'avons vu aussi comme homme, que dans les circonstances difficiles qu'il traversait, il était occupé de son Père, de son Dieu, comme nous le voyons, nous l'avons lu aussi dans ce psaume, et alors de son cœur peuvent monter cette louange et cette adoration personnelle envers son Dieu. Et donc ici, dans ce psaume, nous voyons le Seigneur comme homme, et parfaitement homme. Le Seigneur aussi, comme homme, avait plusieurs aspects dans ce qu'il était venu faire. Il était venu, d'une part, manifester ce que Dieu était à l'homme, mais d'autre part, être un homme parfait qui marchait devant Dieu en honorant parfaitement celui qu'il avait envoyé. Et c'est plutôt ce côté du Seigneur Jésus que nous avons dans ce psaume. Alors, par rapport, justement, si nous voulons goûter le repos, comme le Seigneur l'a dit, il dit « Apprenez de moi ». Alors, j'aimerais simplement souligner quelques aspects dans ce psaume, d'autres pourront en faire d'autres remarques aussi, qui nous montrent ce que nous avons à apprendre du Seigneur. Lui l'a manifesté en perfection. Nous, nous sommes bien en arrière dans la façon dont nous pouvons vivre ces choses qui sont écrites de lui dans ce psaume. Et même David, qui l'avait écrit, certaines choses ne s'appliquaient qu'au Seigneur lui-même. Et donc, les premières choses qui est dites de lui, « Garde-moi, ô Dieu, car je me confie en toi. » Entendre cette parole de la part du Seigneur Jésus, de cet homme parfait, combien cela est délicieux finalement. « Garde-moi, ô Dieu. » Il ne comptait pas sur lui-même pour marcher d'une manière qui honore Dieu. Il ne comptait pas sur lui-même, mais il comptait sur son Dieu. « Garde-moi, ô Dieu, car je me confie en toi. » Je me confie en toi, dans cette expression ici, c'est la confiance contre les ennemis, contre toute l'adversité que l'on peut connaître dans ce monde. Et il y a plusieurs mots pour confiance, mais ici c'est plus cette acceptation que l'on retrouve et que l'on a. C'est vraiment se confier en Dieu vis-à-vis de toute l'adversité. Et combien de choses adverses nous pouvons rencontrer dans notre vie. Et ici, garde-moi, ô Dieu, car je me confie en toi. Donc deux choses. La dépendance, une dépendance entière et une confiance entière. Donc ces deux choses, combien nous avons à y méditer dessus, ce n'est pas l'objet d'une méditation de 5 minutes ou de 10 minutes ou d'un quart d'heure qui nous permettra d'entrer dans ces choses et de les reproduire dans notre vie. Mais combien les livre un peu à votre méditation personnelle, chacun, pour pouvoir entrer un peu plus dans ce que le Seigneur Jésus a vécu, dans ce qu'il a manifesté, et dans ce qu'il nous appelle à manifester à sa suite, et à connaître aussi en termes de résultats dans cette paix, cette joie et ce repos que l'on peut goûter dans notre chemin ici-bas. Garde-moi, ô Dieu, je me confie en toi. Donc, cette dépendance et cette confiance. Et d'ailleurs, cette confiance, ce mot confiance, il apparaît dans un psaume où, de notre point de vue, il ne pouvait pas apparaître. C'est dans le psaume 22, ce psaume qui nous parle de l'abandon de Dieu, alors qu'on n'avait jamais vu le juste abandonné. Lui, le seul juste que la terre avait porté, il était abandonné. Alors, allait-il faire confiance en son Dieu à cet égard? Il peut exprimer « Tu m'as donné confiance sur les mamelles de ma mère ». Et combien cette confiance, justement, elle correspond à ce que nous pouvons lire aussi dans le livre du prophète Jérémie, qui avait annoncé un peu les mêmes choses. Le prophète Jérémie, au chapitre 17. Au verset 7, dit, donc Jérémie 17, verset 7, « Bénis l'homme qui se confie en l'Éternel, Et de qui l'Éternel est la confiance, il sera comme un arbre planté près des eaux. Il étendra ses racines vers le courant et il ne s'apercevra pas quand la chaleur viendra. Et sa feuille sera toujours verte. Et dans l'année de la sécheresse, il ne craindra pas et il ne cessera de porter du fruit. Bienheureux l'homme dont la confiance est en l'Éternel, qui se confie en l'Éternel. Et combien cela a été parfaitement réalisé dans le Seigneur, et combien nous avons besoin aussi de faire des progrès dans cette confiance à l'égard du Seigneur, à l'égard de notre Dieu. Nous avons bien des circonstances où, et chacun peut l'examiner pour lui-même, je peux manquer de confiance dans mes examens si je suis jeune et que je suis à l'école, je peux manquer de confiance dans le Seigneur, mais lui faire confiance dans ces choses mêmes, dans ces choses quotidiennes de la vie, un travail, pour avoir un travail, pour avoir une décision même, quand je suis amené à prendre des décisions, est-ce que je fais confiance au Seigneur? Et que, ben justement, celui qui se confie en l'Éternel et non pas dans l'homme, on pense aussi à des maladies, où on peut se tourner vers les médecins plutôt que vers le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se tourner non plus vers les médecins, mais avant vers le Seigneur. Que le Seigneur dirige toutes choses et opère aussi, dirige la main du chirurgien qui intervient, parce qu'on peut avoir des frayeurs aussi à ces moments-là. On peut être perturbé, on peut être angoissé. Et justement, cette angoisse, est-ce qu'elle n'est pas le contre-coup d'un manque de confiance? Si je suis entièrement confiant, je serai dans le repos, dans la paix et dans la joie. Et le Seigneur l'était, et il était au moment le plus critique ou le plus, je ne sais pas comment exprimer, de sa vie, quand il était sur la croix et qu'il allait être abandonné de Dieu. Tu m'as donné confiance sur les mamelles de ma mère. Donc, souvenons-nous, cette dépendance entière et cette confiance entière, et apprenons à justement projeter ces choses de la vie du Seigneur dans notre vie. Parce que c'est cette vie qui est notre vie aujourd'hui. Ce n'est pas la vie du premier homme, mais c'est bien la vie de Christ que nous avons à manifester, que nous avons reçue et qui bientôt brillera en perfection quand nous serons dans le ciel, mais que nous puissions la faire briller toujours davantage ici-bas. Et après, il dit, « Tu as dit à l'Éternel, tu es le Seigneur, ma bonté ne s'élève pas jusqu'à toi. Tu as dit aux saints qui sont sur la terre et aux excellents, en eux sont toutes mes délices. » Donc il y avait deux axes dans les pensées du Seigneur, dans les objets qui étaient devant lui. Il y avait l'Éternel et il y avait les saints et les excellents qui étaient sur la terre. Il y avait aussi sur cette terre d'autres, ceux qui couraient après un autre. De cela, il dit, « Je ne prendrai pas leur nom sur mes lèvres. » Mais de ces saints et ces excellents qui sont sur la terre, alors il dit, « En eux sont toutes mes délices. » Alors, est-ce que vous êtes de ces saints et de ces excellents qui sont sur la terre? Comment comprendre ces expressions? Quand on se sait misérable et pécheur, on n'a pas tendance à se sentir ni saint ni excellent. Mais ces saints et ces excellents que le Seigneur voit sur la terre, qui sont, donc ces saints, c'est ceux qui sont mis à part, et ces excellents, c'est, on peut en voir une image quand le Seigneur, dans le désert, au Jourdain, se joint au peuple repentant. Et quand il voit ce mouvement du cœur, d'un cœur qui reconnaît ses péchés, son état devant Dieu, alors il fait partie de ces saints, de ces excellents de la terre, qui reconnaissent une situation qui existe, une situation de pécheur, de péché, mais qui vont vers Dieu à travers cette repentance, en reconnaissant ce que l'on est soi-même, mais en reconnaissant aussi ce que Dieu est pour des gens qui sont tels. Et donc ce sont ces saints et ces excellents. En eux, j'ai trouvé toutes mes délices. Et j'espère que chacun de nous ici peut dire que le Seigneur Jésus trouve toutes ses délices en lui. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il trouve. Alors après, il y a comment nous vivons ces choses. Mais que cela aussi nous interpelle dans la façon dont nous vivons, la façon dont nous réagissons aux circonstances de cette terre. Mais il dit aussi la première chose, tu es le Seigneur. Ma bonté ne s'élève pas jusqu'à toi. Tu es le Seigneur. C'est celui qui est entièrement soumis à Dieu. Il voit dans le Seigneur, et ici le Seigneur, il prend sa place d'homme, d'être qui est parfaitement un homme, et comme tel, il dit, je n'atteins pas jusqu'à toi. Ce sont des pensées, on en parlait récemment, qui sont impossibles à comprendre à un incrédule, qui sont encore plus impossibles à comprendre à certaines religions sur cette terre, et en particulier les musulmans, que le Fils de Dieu soit devenu un homme. C'est impossible à comprendre ces choses. Et pourtant, nous savons qu'elles existent parce que notre Dieu nous le dit, et que le Seigneur Jésus est devenu homme, et qu'il devait devenir homme pour régler cette question du péché. Mais il a été cet homme, parfaitement homme, et un homme parfait qui peut dire « Tu es le Seigneur ». Ma bonté ne s'élève pas jusqu'à toi. Et donc cette soumission, on a vu la dépendance, la confiance, ici la soumission et l'humilité qui se joint à ces saints et ces excellents comme on le pense, et chacun pourra lire, justement c'est en Luc 4, je crois qu'on peut voir cette scène où le Seigneur se joint à ceux qui se repentent et qui s'avancent vers Jean au Jourdain pour se faire baptiser. Et le Seigneur ne reste pas en dessus d'eux. Il ne va pas, mais il va avec eux. Et on voit comment, dans cet accompagnement qu'il fait, de cette démarche qu'ils ont de venir à Dieu dans la repentance, reconnaissant ce qu'ils sont comme pécheurs, alors le Seigneur se joint à eux, alors que lui-même était sans péché. Mais c'était son chemin, la façon dont il peut dire, il montrait qu'il avait toutes ses délices dans les saints et les excellents. Et nous avons après donc parler rapidement les misères de ceux qui courent après un autre. Le Seigneur était tellement occupé de son Dieu que tout ce qui était autre que Dieu n'avait pas de place dans sa vie, et en particulier dans les hommes. Et il pouvait dire justement, l'issue de leur chemin, ce n'est pas la paix, ce n'est pas le repos, mais les misères multipliées. Alors voilà, avons-nous conscience que ceux qui dans ce monde continuent à suivre leur chemin de propre volonté, leurs misères seront multipliées. Alors qu'effectivement, le Seigneur nous donne de pouvoir parler à ces âmes qui peuvent être fatiguées et chargées, qui ne peuvent ne pas connaître l'Évangile, de façon à ce qu'ils viennent à Jésus pour trouver le repos de leur âme. L'Éternel est la portion de mon héritage et de ma coupe, tu maintiens mon lot. Les cordeaux sont tombés pour moi en des lieux agréables, oui, un bel héritage m'est échu. Quand on lit ce psaume, on a l'impression que tout va bien, qu'il n'y a aucune circonstance difficile. Mais quand on connaît la vie du Seigneur, on sait que ce n'est pas vrai. Et pour autant, ce qui est exprimé ici, c'est l'Éternel est la portion de mon héritage. Les cordeaux sont tombés pour moi en des lieux agréables. Je bénirai l'Éternel. Et après, mon cœur se réjouit, ma chair reposera en assurance, etc. On voit toutes ces expressions de confiance, de reconnaissance, de joie, de paix, qui se manifeste finalement dans ce que le Seigneur peut vivre et exprimer de la façon dont il traverse les circonstances. Et quelqu'un a dit que l'homme, où on peut facilement mettre les circonstances entre nous et Dieu, alors que le Seigneur, lui, avait toujours son Dieu entre lui et les circonstances, et c'est ce qui fait toute la différence. Si nous voyons d'abord Dieu et puis les circonstances, cette louange pourra monter de nos cœurs aussi, comme celle de celui du Seigneur, en acceptant la volonté de Dieu. Quelle qu'en soit la difficulté pour nous, parce qu'il peut y avoir une difficulté. Mais en revanche, si les circonstances se placent entre nous et Dieu, alors dans nos vies, il y aura de l'insatisfaction. Alors, il y aura de la déception. Alors, il peut y avoir aussi de la dépression. Il peut y avoir plein de choses comme ça qui sont le contraire, justement, de ce repos, de cette joie et de cette paix que le Seigneur veut nous donner. Mais ici, on voit que c'est l'Éternel. Autant il avait dit, tu es l'Éternel, tu es le Seigneur, ma bonté ne s'élève pas jusqu'à toi. Il se plaçait dans cette position d'homme, mais dans cette position d'homme parfait, le seul objet de son cœur ou l'objet principal de son cœur, même si les circonstances peuvent être difficiles par ailleurs, l'objet principal de son cœur, c'est l'Éternel. L'Éternel est la portion de mon héritage. Donc, retenons cela aussi. dans toutes nos circonstances, ayons conscience que Dieu est au-dessus de toutes nos circonstances, que c'est lui qui les permet. Il peut utiliser Satan ou la méchanceté de l'homme dans certaines de ses façons de faire. On le voit dans le livre de Job, par exemple, où il utilise Satan pour amener la souffrance que l'on voit dans ce livre de Job, mais pour finalement, à la fin, faire du bien à Job et à ses amis aussi. Mais donc, si on a ces circonstances entre nous et notre Dieu, alors nous ne vivrons pas de la vie que le Seigneur, ou en tout cas nous ne manifesterons pas dans notre vie ce que le Seigneur a pu manifester. En revanche, si effectivement, comme le Seigneur, nous suivons, nous mettons Dieu ou le Seigneur entre les circonstances et nous, alors nous pourrons manifester ce que le Seigneur a manifesté. Je me rappelle quand j'étais jeune, et ça je le dis plus pour les jeunes, je cherchais dans la parole la vérité. Mais la vérité, ce n'est pas elle qui nous donne de la force. Et je me rappelle lors d'un entretien, quelqu'un m'a dit, et je disais par rapport à Satan, ça me permet de me préserver du monde, etc., d'être séparé du monde, etc. Mais quelqu'un m'a dit à ce moment-là, et je l'ai toujours retenu, c'est « mais est-ce que tu le fais comme ayant conscience que tu as un berger qui protège sa brebis, ou est-ce que tu le fais en te basant sur la vérité elle-même ?» C'est là où j'ai compris qu'il y avait autre chose finalement que la vérité en elle-même, mais que nous avons un berger, une personne vivante qui s'occupe de nous, qui prend intérêt de nous et qui vient là contre nos ennemis, contre ceux qui veulent nous faire du mal. Et le monde en est rempli, Satan en premier. Mais on a ici justement aussi, c'est en ayant l'Éternel devant nous, non pas quelqu'un de loin, parce que nous connaissons le Seigneur Jésus aussi comme notre berger. Peut-être pour dire pour les plus jeunes, ici dans ce psaume, c'est un psaume qui est du temps pour Israël, et donc c'est l'Éternel, le nom de l'Éternel qui est mis en avant et qui est juste à sa place. Alors que pour nous, l'équivalent, pour nous chrétiens, c'est la connaissance de Dieu comme notre Père et du Seigneur Jésus comme notre Seigneur. Et donc ce qui est dit ici, pour l'extrapoler ou pour le projeter dans notre situation de chrétien, c'est il faut prendre ce qui est dit de l'Éternel ici, il faut le prendre comme étant le Seigneur ou notre Dieu. Et donc il y a ces circonstances, mais qui ne sont pas finalement mentionnées ici, ou peu, sauf peut-être à la fin, parce que ce qui occupe le cœur de cet homme pieux, du Seigneur Jésus, c'était son Dieu. Et je bénirai l'Éternel qui me donne conseil. Donc, un autre élément, c'est accepter le conseil. On est aujourd'hui dans une société où on accepte peu le conseil. Le conseil des aînés, des plus jeunes, vis-à-vis qu'ils demandent aux aînés, on fait des fois plus confiance à Internet en disant « j'ai cette situation, ben je vais aller voir sur Internet pour voir qu'est-ce qu'on en dit et pour essayer de me débrouiller ». Non, ce n'est pas ainsi. Il y a la confiance et le conseil que l'on peut avoir auprès de plus âgés ou que le Seigneur a placé dans l'assemblée pour le bien du troupeau. Mais ici, en premier lieu, il y a le conseil de l'Éternel. Et c'est vraiment cela, l'objet qui doit être devant nous, de rechercher ce conseil de l'Éternel et le Seigneur Jésus lui-même accepter, et comme il est dit, je crois, quelque part que, je ne me rappelle plus, j'ai plus exactement la référence, qu'il me réveille chaque matin pour être comme ceux que l'on enseigne, en fait. Et cela aussi est du Seigneur. Et combien nous avons à rechercher ce conseil, et ces conseils, où les trouverons-nous, si ce n'est dans sa parole, lu avec prière, médité et étant conduit par l'Esprit Saint, parce que sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas entrer dans cette parole. Et donc je bénirai l'Éternel. Combien le Seigneur était heureux de recevoir ce conseil de l'Éternel. Et la nuit même, mes reins m'enseignent. Et autre chose, je me suis toujours proposé l'Éternel devant moi. Alors on va dire c'est un idéal, parce que nul d'entre nous ne se propose toujours l'Éternel ou notre Dieu devant. Mais plus nous irons vers cette situation, plus nous connaîtrons ce que le Seigneur a connu dans sa vie parfaite comme homme ici-bas. Je me suis toujours proposé l'Éternel devant moi. Parce qu'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. À qui n'est-il pas arrivé ici d'être ébranlé? Ébranlé parce que tout ce que l'on voit dans ce monde, la guerre qui est dans nos portes, récemment le Covid, mais combien de certitudes et combien de choses nous avons pu être ébranlés, même dans la vie de l'Assemblée. Et pourtant, ici, parce qu'il est à ma droite, le Seigneur avait conscience justement de la présence de son Dieu parce qu'il l'avait toujours devant lui. Parce qu'il est à ma droite, je ne serai jamais pas ébranlé. Et alors son cœur pouvait se réjouir, son âme s'égayait, même ma chair reposera en assurance. Et là alors, il parle de sa mort et de sa résurrection. Tu n'abandonneras pas mon âme au Shéol, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu me feras connaître le chemin de la vie, ta face est un rassasiement de joie, il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. Mon cœur se réjouit. Est-ce qu'on peut se réjouir dans la mort? Mais oui, parce que à travers ces circonstances si extrêmes, finalement, est-ce qu'il y a une circonstance plus extrême dans la vie d'un homme? Peut-être il y a des choses aussi très difficiles, même dans la vie, dans ce que l'on voit, etc. Mais ici, pour le Seigneur, est-ce qu'il y avait une circonstance plus extrême que la mort? D'entrer dans la mort, lui, le prince de la vie. Et pourtant, il pouvait dire, mon cœur se réjouit. Ma chair reposera en assurance. C'était parce qu'il avait une pleine confiance en Dieu, en son Dieu, que toutes choses étaient conduites par lui et qu'il savait, il connaissait un Dieu de bonté, un Dieu d'amour. Et c'est bien quand nous connaissons Dieu comme cela, pas un Dieu qui veut nous punir parce que nous avons fait mal, pas un Dieu qui va être comme cela, mais un Dieu qui cherche à bénir et qui se propose toujours la bénédiction de ses enfants. Tu n'abandonneras pas mon âme. Et ensuite, au verset 11, je terminerai par ça. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Ta face est un rassasiement de joie. Il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. Tu me feras connaître le chemin de la vie. C'est ce que l'apôtre Pierre applique au Seigneur en disant que David avait parlé de la résurrection. Mais ta face est un rassasiement de joie. Il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. Le Seigneur, sur cette terre, n'était pas encore passé par la mort. Et il pouvait exprimer ces choses avant de passer par la mort. Il pouvait exprimer cette assurance qu'il ne serait pas laissé, son âme ne serait pas laissée au Shéol, son sein lui-même ne verrait pas la corruption, etc. Il en était certain avant de traverser ces choses. Et c'est quoi cela, si ce n'est le chemin de la foi? La foi voit les choses, même les choses de Dieu, en fait, telles qu'elles sont aux yeux de Dieu, et non pas dans les circonstances de la vie. Et alors il voyait cela, il voyait ce chemin de la vie, ce chemin de la vie qui conduisait où? Qui conduisait à la droite de Dieu. Durant le temps de sa vie ici-bas, il dit « tu es à ma droite ». Et là, il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. Dieu veut être avec nous à notre droite dans tous les jours de notre vie. Le Seigneur l'a dit, « moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle ». Et il veut nous amener jusqu'à lui, à sa droite justement, dans ce lieu où le Seigneur peut dire « il y a un rassasiement de joie, ta face est un rassasiement de joie, il y a des plaisirs à ta droite pour toujours ». Et c'est bien notre espérance aujourd'hui, notre espérance d'être, on l'a chanté ce matin aussi, d'être bientôt et pour toujours avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit « réjouissez-vous, bientôt ». Nous saurons, alors on peut peut-être lire ce verset, que si c'est un Thessalonicien. On va lire dans 1 Thessalonicien 4, effectivement. À la fin du verset 16, les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et cette parole, consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. Être toujours avec le Seigneur. Celui que nous apprenons à connaître dans notre chemin ici-bas, c'est celui avec lequel nous allons passer l'éternité. Et On a exprimé quelque chose de son amour, combien le Seigneur nous aime, jusqu'où il est allé pour nous manifester cet amour et pour que cet amour puisse s'exprimer entièrement. Et c'est avec une telle personne que nous allons bientôt passer l'éternité.